Patrice Sermette, bonjour.
Oui, bonjour Sandrine. Bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation, de nous raconter un petit peu tout ce que vous savez. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'adolescence. L'adolescence qui est donc une période critique du développement humain, qui peut être une période parfois difficile à vivre, déjà pour les adolescents eux-mêmes, mais également pour leurs proches, dont les parents. Donc je commencerai par faire une introduction un peu générale sur cette période qu'est l'adolescence. Ensuite, nous parlerons de la puberté et des changements physiques, qui est vraiment l'entrée dans cette période. Ensuite, nous parlerons des changements psychiques qui s'opèrent durant l'adolescence. Ensuite, les comportements sociaux aussi, l'évolution de la place dans le monde. Et enfin, nous conclurons sur le travail de remaniement de cette identité de l'adolescent qui finalement... la finalité est l'autonomie de la personne et la construction d'une personnalité adulte, mature. Donc, en introduction, c'est l'adolescence donc, qui est effectivement une période de développement au cours de laquelle s'opère le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est donc une période de transition et une période temporaire qui correspond au travail intégratif des transformations de la puberté et à l'établissement progressif de la personnalité adulte. C'est le corps du sujet avec ses modifications qui est vraiment au cœur du processus de l'adolescence, un processus qui est interne, qui va agir et induire des changements visibles sur la scène sociale. Le corps se transforme et ça va se voir aussi à l'extérieur. Donc c'est vrai que l'adolescent il va devoir déjà intégrer un nouveau corps, et intégrer également un regard qui va être changé de la part de l'extérieur, puisque du coup ce corps change, devient adulte, mature. Et c'est un processus donc de l'adolescence qui contient deux notions aussi, donc c'est celle du changement et celle des potentialités. C'est vrai qu'à l'adolescence, le changement, c'est en fait la rupture de linéarité du développement physique. On l'observe notamment par des poussées de croissance, vraiment il y a quelque chose qui est un changement vraiment... qualitatif et quantitatif, c'est-à-dire c'est d'un coup le corps change, la voix change, et donc c'est vraiment une rupture de linéarité et il y a une mutation sociale de la dépendance familiale à l'autonomie. L'enfant qui était évidemment dépendant de ses parents va petit à petit recouvrir une autonomie, arriver à penser par lui-même et à se détacher et se construire donc dans la société. Et il y a également une évolution de la qualité des processus de la pensée. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, petit à petit, la pensée donc, va s'améliorer, je dirais, avec notamment des acquisitions qui vont permettre à l'adolescent de penser la société, de penser sa vie de façon différente, on le verra tout à l'heure. Également des modifications au niveau de l'affectivité. L'affectivité va évidemment changer à l'adolescence, on n'est plus un enfant. Enfin, sur la notion de potentialité à l'adolescence, elle découle finalement de ces changements. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, il y a de nouvelles capacités qui vont émerger, que l'adolescent va devoir explorer, et qui sont des potentialités notamment physiques, liées par exemple au développement musculaire, mais aussi les potentialités intellectuelles, qui vont permettre par exemple à l'adolescent de créer et d'imaginer un autre monde, d'autres règles. Et ce sont des potentialités qui sont vraiment initiées par les transformations amenées par la puberté. Voilà, donc on va commencer par parler de la puberté. Donc la puberté, c'est l'ensemble des changements biologiques et anatomiques qui aboutissent à la capacité de reproduction. Donc c'est quelque chose d'universel qui intervient entre 10 et 19 ans, généralement autour de 12-13 ans, notamment en France. Et au niveau physiologique, c'est vraiment donc deux changements qui s'opèrent. Le premier, c'est la maturation du caractère primaire sexuel, donc l'appareil sexuel qui arrive à maturation. Et le deuxième changement, c'est donc la maturation des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire notamment les modifications morphologiques. Par exemple, pour les garçons, donc le développement de la pilosité, la voix qui mue, l'accélération de la croissance, l'augmentation de la masse musculaire. Pour les filles, ça va être le développement mammaire, l'apparition des premières règles, des poussées de croissance. L'âge de la puberté, ça dépend plus de ce qu'on dit, des conditions socio-économiques que des conditions ethniques. Par exemple, les filles, généralement, ont leurs premières règles plutôt à la ville qu'à la campagne. Donc on l'attribue au fait qu'il y ait souvent plus de bruit, plus de stress, et d'une certaine manière, elles deviennent adultes plus rapidement. Le point repérable de la puberté, c'est le repli de l'adolescent sur lui-même. C'est souvent ce qu'on a constaté, c'est-à-dire que l'adolescent ne va plus se confier, il n'y a plus de demande aux parents, une relation particulière aussi vis-à-vis de l'ordre, et souvent un dialogue codé avec ses amis. C'est l'adolescent, notamment dans l'entrée à l'adolescence, va avoir beaucoup besoin finalement du côté groupe, de pairs, de gens qui lui ressemblent, et s'isoler un peu. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, avec l'évolution des moyens de communication, c'est un processus qui est plus fort, je dirais. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui de communiquer vraiment en cercle fermé, quoi, contre jeunes. Tiens. Alors, c'est évidemment une situation qui peut être difficile à vivre pour l'adolescent, ce changement de corps, encore une fois, et également difficile à vivre aussi pour les parents. Qui doivent évidemment aussi, je dirais, s'adapter et accepter cette transformation qui s'opère. Sachant que ce processus de puberté, il engage vraiment l'adolescent donc dans un triple remaniement. C'est-à-dire le remaniement dans la relation avec son propre corps, la relation avec la sexualité, puisque c'est aussi donc ça qui apparaît à l'adolescence, la capacité de se reproduire, et donc ce que ça comporte. Et le troisième remaniement, donc, c'est la relation avec donc, son environnement, soit ses parents, la famille, les amis. C'est donc un triple remaniement qui est psychique, mais qui est donc induit par le corps et qui s'organise à partir de lui. Une autre notion qu'on observe et qu'on repère à l'adolescence, c'est la notion de disharmonie, c'est-à-dire le décalage finalement qu'il y a entre d'un côté cette puberté somatique, ce changement somatique, et l'intégration par le sujet. C'est-à-dire qu'entre le moment où mon corps change, devient adulte, et le moment où psychiquement je le comprends et je l'ai intégré, il y a souvent un décalage. Alors pour peut-être être un peu plus clair, c'est notamment pour ça que des fois on a des adolescents qui peuvent être un petit peu gauches, un peu maladroits. C'est le fait tout simplement que ce nouveau corps, ils ont tout simplement à le comprendre et à le maîtriser, je dirais. Voilà, donc ça c'est donc sur la puberté, ces changements physiques qui apparaissent. On va maintenant parler donc des changements psychiques qui arrivent à l'adolescence et qui encore une fois découlent de ces changements physiques. Alors déjà je vais citer Françoise Dolto qui a donné une très belle image de ce qui se passe à l'adolescence. C'est ce qu'elle a appelé le complexe du homard. Alors je la cite, l'adolescence est une seconde naissance où l'on quitte le cocon ou la protection familiale comme on a quitté le placenta protecteur. C'est-à-dire que l'enfant qu'on a été doit disparaître pour laisser place à notre personnalité adulte, ce qui d'ailleurs donc peut donner l'impression de mourir. Il y a des deuils vraiment qui seront à faire à l'adolescence. Plus rien n'est comme avant et il s'agit de vivre sa vie, de quitter ses parents. Mais évidemment c'est difficile et puis y a la question de son propre avenir dont on peut avoir peur. Donc Françoise Dolto qualifie de l'adolescence de complexe du homard en se référant à la fragilité de l'animal qui a perdu sa carapace et qui n'en a pas encore acquis de nouvelles. Suivant cette image, l'adolescence donc va devenir adulte, va perdre sa première carapace, celle de l'enfance, mais va rester sans défense le temps d'en trouver une nouvelle finalement. Qui par exemple peut expliquer que des fois on a des adolescents qui peuvent être très susceptibles ou hypersensibles tout simplement parce qu'encore une fois il y a plus, je dirais, le cocon protecteur et de l'enfance, le côté insouciance et les croyances un petit peu magiques de l'enfant, et en même temps on n'a pas encore acquis, je dirais, une compréhension adulte et des repères stables dans sa vie. Donc c'est une situation vraiment d'entre-deux, encore une fois, de transition qui peut être difficile à gérer et qui peut amener, encore une fois, des choses un peu de l'ordre du repli et de la sensibilité exacerbée. Au niveau, maintenant, de l'évolution dans la pensée, c'est vrai que pendant l'adolescence, donc, il y a des changements importants qui interviennent aussi dans le mode de fonctionnement de la pensée. Là, je m'appuierai sur Jean Piaget et sa théorie opératoire. Donc, Jean Piaget, un psychologue suisse qui a écrit, donc, qui a pensé sur les stades du développement intellectuel donc chez l'homme, Et à l'adolescence, donc, on arrive au quatrième stade du développement de la pensée, qui est le stade des structures de la pensée formelle, et qui correspond donc au stade d'achèvement du développement cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, à cet âge, pendant l'adolescence, entre 11 et 15 ans à peu près, la pensée vraiment va être aboutie, entre guillemets, et surtout, c'est une pensée qui va en fait permettre une inversion du rapport entre le réel et possible. C'est-à-dire qu'auparavant, l'enfant, dans la pensée, c'est une pensée qui est le prolongement de la réalité. Et alors qu'avec maintenant cette pensée formelle, cela va s'inverser, et le possible peut être subordonné au réel. C'est-à-dire qu'en fait, l'adolescent va devenir capable de poser des hypothèses, et non plus seulement donc en se référant à des objets concrets. C'est une pensée qui est dite hypothético-déductive, alors bon, c'est un petit peu compliqué, mais très simplement, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, on peut poser des hypothèses. Et c'est donc un fait majeur, une révolution dans la pensée, et qui explique notamment que les adolescents vont pouvoir du coup avoir cette appétence, je dirais, à remettre en question les choses, déjà eux-mêmes, et puis aussi les autres, et puis le monde. Ils ont ces nouvelles capacités, et on observe notamment aussi une pensée qui va pouvoir devenir réfléchie, c'est-à-dire penser à la pensée. Je pense que je pense. Ça, c'est quelque chose qui arrive à l'adolescence. Et encore une fois, ça se retrouve donc chez l'adolescent dans son penchant pour l'introspection aussi, la rêverie. Et ça va se traduire par la construction de formes plus élaborées de connaissances de soi et d'autrui. D'autrui aussi qu'on va bien différencier de soi. Il y a un peu un passage d'objet à sujet finalement. L'autre devient vraiment sujet à l'adolescence. Différent de soi. Et c'est aussi cette évolution des conceptions de soi et d'autrui d'ailleurs qui pourra alimenter des revendications d'autonomie, d'égalité et de réciprocité. Hein, c'est notamment ça qui alimente beaucoup de conflits entre l'adolescent et son entourage. Il a le droit d'être comme tout le monde, il veut être comme tout le monde, il veut être autonome, etc. Voilà, c'est vraiment cette évolution de pensée qui permet ça. Et puis finalement, l'interrogation sur soi va aussi s'étendre à des questions plus vastes chez l'adolescent, qui va notamment investir émotionnellement, comme par exemple l'amour, l'amitié, la religion, la justice, la société. Et pour la première fois, l'adolescent peut se poser la question du sens de la vie et de la mort. Au niveau des changements psycho-affectifs, là, selon la théorie de donc Sigmund Freud, hein, donc psychanalyse, donc à l'adolescence, en fait, comme pour l'intelligence d'ailleurs, c'est le dernier stade de développement psychique au niveau psycho-affectif. Donc c'est la phase génitale, c'est donc l'accès à la sexualité adulte pour l'adolescent, c'est-à-dire que la capacité de se reproduire, et au niveau psychique, une capacité aussi d'excitation globale adulte, de désir adulte, mature. Et c'est donc quelque chose aussi qui va forcément bouleverser aussi le rapport à son corps et le rapport au monde. Et donc petit à petit intégrer encore une fois cette nouvelle possibilité qui arrive pour lui. C'est vrai que l'adolescence, en fait, c'est un peu une révolution au sens où on était enfant avec encore une fois nos croyances, notre cocon, nos idéaux, et puis d'un coup il y a notre corps qui change et on se retrouve projeté malgré nous, sans préparation, dans quelque chose d'adulte, de mature, et du coup c'est vraiment ce travail d'intégration de tous ces changements, à la fois les changements pour soi et puis les changements que les autres finalement nous renvoient aussi, parce que le regard des autres forcément va changer aussi. Alors par rapport notamment à la famille, un point aussi, c'est vrai que du coup pour l'enfant il y a quelque chose de, encore une fois, parler de pensée magique chez l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'idéalisé. Et l'adolescent, par notamment ses nouvelles capacités de réflexion et de pensée, va permettre petit à petit d'être un peu plus proche de la réalité, entre guillemets, de réaliser un peu mieux, par exemple, ce qui l'entoure, et notamment sa famille, ses parents. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que chez l'enfant, les parents sont idéalisés, et l'adolescent, du coup, devra aussi faire ce deuil-là. C'est-à-dire finalement, les parents, pas comme ce qu'on croyait enfant, c'est des gens comme tout le monde, et accepter par exemple notamment la vieillesse ou le fait de vieillir, ça pour l'enfant c'est pas, si vous voulez, c'est pas dans la pensée, chez l'adolescent ça arrive. Donc c'est par exemple un autre travail d'acceptation qu'on trouve chez l'adolescent. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour l'évolution hein, des processus de pensée, des processus psychiques chez l'adolescent. Au niveau du comportement social, donc l'adolescence, on va observer trois phases principales. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'opposition. On pourrait parler de crise d'adolescent. Donc elle survient généralement entre 12 et 15 ans. Et ça commence vraiment par voilà, une sorte d'effondrement total de tout ce qu'on a acquis de l'enfance, de toutes nos croyances. Et il y a une forme de remise en question finalement un peu globale. Et donc c'est un mouvement régressif, cette phase d'opposition, au cours de laquelle l'adolescent peut être imprévisible. Comme ça, un peu être dans une forme de refus de tout ordre établi. Et en même temps, une incapacité à domestiquer les désirs qui apparaissent. Voilà, une sorte un peu, on est envahi par toutes ces nouveautés. Et du coup, voilà, il y a une forme d'opposition aussi. Parce que finalement, en gros, c'est peut-être trop d'un coup. Et on a besoin de mettre un peu de distance et de voir un peu ce qui se présente, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui se passe en gros. Ça a donc pour but aussi une certaine prise de conscience de soi. C'est une phase d'opposition finalement qui est là aussi pour permettre d'arriver à se révéler un peu à soi-même. Finalement, je refuse ce qui vient de l'extérieur pour déjà voir ce qui se passe à l'intérieur en fait. Ensuite, il y a la phase d'affirmation du moi. Donc ça, c'est une période de revendication. Une forme de, en gros, je veux, j'exige, avec cette demande d'indépendance, de liberté de l'adolescent. Ça peut être aussi donc l'époque du conflit des générations. Hein, en gros, c'est voilà, les plus âgés ont forcément tort, etc. Et c'est une phase aussi où il peut y avoir vraiment cette élaboration de systèmes nouveaux et meilleurs pour la société. C'est une période où l'adolescent discute beaucoup. Et c'est vrai qu'au niveau, alors si on fait un parallèle avec le scolaire, c'est notamment à ce moment-là aussi qu'il y a la philosophie hein, qui est enseignée au lycée. Donc voilà, on est vraiment sur des réflexions plus poussées et en même temps veut aussi s'affirmer. Et puis la troisième phase dans l'évolution des comportements sociaux, c'est la phase d'insertion, hein, où là l'adolescent va s'identifier de façon plus stable, notamment à l'adulte, avec moins d'idéalisation. Petit à petit, il va réaliser son indépendance affective et construire son indépendance économique. Il accepte voilà, vraiment de réellement et sans ambivalence de passer vraiment à l'âge adulte avec la maturité et la responsabilité que ça implique. Et c'est notamment donc une phase d'insertion qui va être facilitée avec l'accès au travail, une relation de couple aussi. Hein, on va choisir un partenaire hein, ou une partenaire. Et à l'inverse, c'est une phase d'insertion qui peut être freinée quand il y a la précarité ou le chômage qui perdure. Ouais, il faut savoir aussi que de plus en plus d'adolescents se retrouvent aussi à la rue, sans domicile fixe et sans travail régulier. Voilà, et apparemment c'est quand même un phénomène relativement nouveau, qui est aussi à prendre en compte et bon, qui pose d'autres questions. Donc sur l'adolescence, en conclusion, je dirais que c'est vraiment la question de l'identité qui va devoir être remaniée et qui représente vraiment l'enjeu majeur de cette période. L'adolescent va devoir assimiler et intégrer dans la représentation de soi l'ensemble des changements physiques, psychologiques et relationnels dont il fait l'objet. L'adolescent va devoir également se reconnaître dans un passé qui est le sien, mais tout en se projetant vers l'avenir et en construisant son futur. Le but de l'adolescence, c'est donc l'autonomie, hein, l'établissement de la personnalité adulte mature. Et c'est donc une phase transitoire. Qui peut présenter un certain nombre de difficultés. Donc au niveau psychologique, l'adolescent doit reconquérir vraiment une identité, restructurer une nouvelle image de soi, accéder à une affectivité et à une sexualité adulte. Et au plan social, ça va être conquérir son autonomie, notamment par l'accession à une fonction professionnelle et une fonction familiale. L'adolescence consiste donc en un cheminement progressif vers l'autonomie, et qui ne peut se faire aussi qu'avec l'accompagnement des adultes, qui doivent communiquer au mieux avec l'adolescent pour mieux le comprendre, sans pour autant être laxiste et justifier tous ses excès. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit peu un résumé de ce qui se passe à l'adolescence, de ce processus. Après, voilà, je peux aussi vous parler de... Donc là, on a fait vraiment un niveau un peu général. On peut évidemment observer des choses plus compliquées en termes de pathologie psychique à l'adolescence. On parlait de l'adolescence, hein, finalement, il n'y a pas d'adolescence sans crise d'adolescence. Mais celle-ci peut être peu, voire pas visible de l'extérieur. C'est pas forcément quelque chose qui se voit. Et en même temps, c'est une crise donc, qui représente l'occasion d'un moment où les changements deviennent possibles. C'est donc une crise qui peut être constructive puisqu'elle permet la recréation d'une identité et une personnalité adulte et autonome. Donc finalement, l'adolescence qui se déroule bien, c'est une adolescence qui aura permis l'expression de cette crise, donc de réinterroger l'ordre ancien, afin de créer vraiment un nouvel ordre. Elle se caractérise donc par la nécessité d'un travail de deuil, le deuil du parent idéal, le deuil de sa propre image idéale, et le deuil du rêve par rapport à la réalité. C'est vrai que l'enfance est aussi caractérisée par l'innocence et l'insouciance. Alors évidemment, on peut toujours être innocent, adolescent et adulte, mais l'insouciance, ça prend une autre forme quand même. Donc la crise d'adolescence, encore une fois, c'est quelque chose d'assez inévitable, même si elle se voit pas forcément. Et pour autant, les adolescents en crise sont une minorité. Donc chez la plupart, ça se passe bien, mais chez une partie des adolescents, ça peut être plus compliqué. Et on peut retrouver à cette période des conduites plus conflictuelles, vraiment avec le milieu extérieur, avec des passages à l'acte, plus lourds. Par exemple, des accès de colère, des fugues, consommer des substances illicites. Alors, ce qui peut alerter finalement, parce que il y a aussi, comme on parlait, de réinterroger l'ordre établi. Donc, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la transgression chez l'adolescent. Des fois, on va trouver ça, c'est-à-dire qu'il a besoin de transgresser les règles pour arriver à trouver un équilibre, à voir jusqu'où il peut aller et comment il se positionne par rapport aux choses. Qui peut alerter, c'est quand finalement ça devient quelque chose de récurrent et que ça s'installe dans le temps. Si des périodes de crise deviennent régulières, chroniques, elles peuvent vraiment révéler un mal-être profond de l'adolescent et peuvent le conduire dans le champ psychopathologique. Donc en termes de symptômes pathologiques qu'on peut repérer à l'adolescence parfois, ça va être par exemple des états dépressifs avec des tentatives de suicide, voire des suicides. Ça peut être des troubles de la conduite alimentaire aussi. Parfois, c'est sous cette forme hein, que c'est sous cette forme de symptômes que vont se révéler des troubles et un mal-être. Donc, par exemple, ça va être la boulimie ou l'anorexie. Et enfin, un autre type de symptômes, un peu de mal-être à l'adolescence, ça peut être tout ce qui va être déviance et délinquance de l'adolescent. Par exemple, les addictions ou les conduites à risque.
Eh bien, en tout cas, un grand merci pour tout ce que vous venez de nous enseigner. Comment font les parents face à tout cela?
Alors, c'est une très bonne question. C'est sûr que la difficulté de l'adolescent, c'est qu'il peut, encore une fois, très vite être dans un repli, dans un isolement. Et du coup, c'est vrai que ça donne peu de prise, finalement, au dialogue et à la communication. Les parents, de toute façon, il y a question du lien d'amour déjà qui évidemment est le plus important, c'est-à-dire que les parents puissent rappeler entre guillemets à l'adolescent par exemple qu'il y a ce lien et que de certaine manière ils sont toujours là pour lui, pour l'aider, etc. Après, c'est vrai que c'est une période difficile hein, pour les parents aussi et parce que du coup ils peuvent tout simplement constater et voir ce qui se passe chez l'ado qui parfois peut à pas aller bien, être un peu en déprime, etc. Mais je dirais, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est qu'encore une fois de rappeler à l'adolescent que s'il a besoin de se confier, de parler, on est là pour lui, quoi.
Oui, et les parents eux-mêmes, est-ce qu'ils peuvent parfois solliciter de l'aide? Parce que c'est vrai qu'on est souvent dépassé et on ne sait pas forcément vers qui se tourner à ce moment-là.
Oui. Bah, bien sûr, les parents peuvent solliciter de l'aide. Vraiment, quand ça devient quelque chose, encore une fois, je dirais, de chronique, avec des attitudes vraiment hostiles et des choses très compliquées, tout simplement, alors il y a ce qu'on appelle les thérapies familiales, hein, qui peuvent être un bon moyen quand à un moment donné, il y a quand même quelque chose de trop fort et qui dure dans le temps. Ça peut être des consultations familiales. Et puis sinon aussi l'entourage, hein, la famille, je dirais, communiquer. De toute façon, c'est un peu l'enjeu aussi, c'est d'arriver à communiquer les choses, à dire les choses, sachant que des fois c'est vraiment un travail d'acceptation aussi, c'est-à-dire de, en gros, il y a encore une fois, comme c'est une période de transition. Ça peut être très critique d'un moment donné de se retrouver projeté, hein, encore une fois, dans un monde adulte, en perdant ses repères d'enfant, etc. Je dirais forcément ça passe par des moments de un peu douloureux, et c'est vrai que du coup il y a une forme d'acceptation à avoir, au sens où je dirais presque qu'il, voilà, des fois il faut en passer par là, mais bien sûr l'idée c'est pas d'y rester, c'est pas de s'y accrocher, pas de rester bloqué dans ça. Mais c'est tout simplement de réaliser petit à petit que finalement aussi, c'est pas une mauvaise nouvelle en plus, c'est qu'on devient adulte. Et je dirais la bonne nouvelle, c'est qu'en devenant adulte, on devient aussi capable de faire des choix pour soi et de construire sa vie en fait. Donc c'est un travail d'accompagnement que vraiment on peut avoir à mener en tant que parent. Et de présence tout simplement. Et en même temps, des fois, voilà, quand il y a, par exemple, je dirais les premiers émois amoureux, les premiers chagrins, ça peut être, en fait, ça peut être à vivre sans forcément qu'on puisse faire quelque chose.
Oui, il faut essayer d'être le plus présent possible. J'imagine que une des difficultés de maintenant, ce sont les familles qui sont séparées, qui sont divorcées, et ça doit certainement créer beaucoup de souffrance chez chaque adolescent. Et alors là, je pense que pour l'unité, c'est pas forcément évident. Pour l'amour, c'est peut-être aussi compliqué dans toutes ces familles maintenant.
Alors, c'est sûr que... depuis tout petit, hein, donc déjà enfant, puis adolescent, on se construit, entre guillemets, psychiquement aussi, comme on dit, par identification. C'est-à-dire qu'on va chercher chez l'adulte, finalement, aussi ce qui nous correspond et ce à quoi on veut ressembler. Alors souvent, c'est évidemment inconscient, hein, comme processus. Mais en tout cas, c'est bien le processus à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on va s'identifier à des caractéristiques, à des qualités, finalement, qu'on voudrait avoir ou à quoi on voudrait ressembler. Je dirais ça peut se trouver chez... Enfin, voilà, ça, le travail se fait plutôt bien, au sens où on va chercher vraiment là, ce qui nous correspond. Après, c'est sûr que l'environnement... d'ailleurs, vous avez raison, j'en ai pas parlé, mais ça joue un rôle clé quand même dans cette évolution de l'adolescence, c'est-à-dire que l'environnement, c'est vraiment un terreau pour que l'adolescent puisse aller puiser ce dont il a besoin pour se construire. Si l'environnement est pauvre, avec peu de ressources, voire un environnement avec des conflits, ou des, ben, effectivement, ça aide pas à se construire, et ça peut être d'autant plus douloureux pour l'adolescent. Après, dans le cadre, par exemple, de parents séparés, je dirais c'est pas tant le fait de séparer qui peut être compliqué, c'est plutôt si, encore une fois, il y a quelque chose de l'ordre du conflit derrière ça. Par exemple, des parents qui, voilà, qui sont un peu en guerre ou qui, du coup, qui prennent à partie l'adolescent. Si, par contre, on a des parents qui sont séparés, mais que, finalement, les choses sont plutôt saines entre eux et qu'il n'y a pas de conflit larvé, ou chez l'adolescent, ça peut être OK pour lui, quoi. Ce qui est plus compliqué, c'est quand, encore une fois, il y a des comportements de conflit aussi au niveau des adultes. Là, pour l'adolescent, effectivement, ça va pas forcément l'aider à se construire. En tout cas, ça peut être plus compliqué, oui.
Madeleine?
Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Voilà, je vous remercie pour toutes ces explications. Mais est-ce que vous pouvez me préciser quelles sont les raisons, les causes qui provoquent l'anorexie ou la boulimie? parce que j'ai connu quelqu'un dans l'entourage qui a été un petit peu perturbé par ça. Et donc, je voulais savoir quels sont les mécanismes, comment aider précisément une personne qui manifeste ça, quoi.
D'accord. Oui, donc vous parlez effectivement des troubles de la conduite alimentaire.
Voilà.
C'est alors, effectivement, ça se rencontre alors, plus souvent chez les jeunes femmes. Alors déjà, la boulimie, donc c'est l'appétit excessif, hein, les accès de fringales, l'appétence par exemple pour la nourriture, qui entraîne donc la personne à absorber de grandes quantités de nourriture, suivie de vomissements provoqués, généralement. L'anorexie, c'est l'inverse, hein, c'est vraiment le refus de nourriture lié à une mauvaise image de soi, notamment de son corps. Alors ça peut devenir évidemment pathologique. Et donc, il y a une question vitale hein, sur l'anorexie. Au niveau des raisons et des causes, alors c'est vrai que c'est des conduites, si vous voulez, qui sont rattachées à l'oralité, entre guillemets, c'est-à-dire le fait d'absorber de la nourriture. C'est alors, au niveau de la boulimie, généralement, on dit que ça peut être vraiment une réponse à toute situation difficile. C'est-à-dire que en gros, un besoin affectif qui n'est pas comblé, la personne boulimique, elle va le combler par la nourriture, en fait.
D'accord.
Ça peut être une des raisons, vraiment un manque affectif, voilà. Au niveau de l'anorexie, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est pareil, c'est un problème souvent d'estime de soi aussi et de problèmes dans la relation aussi. Alors c'est vrai que l'anorexie, c'est beaucoup dans l'hospitalisation hein, que ça peut se soigner. Alors généralement, on préconise de, par exemple, de pas avoir de lien les premiers temps avec la famille, par exemple, sur l'anorexie.
J'ai pas compris ne pas avoir.
Pardon.
J'ai pas compris la dernière phrase. Excusez-moi, parce que la communication est pas très très bonne. Hein. Je suis désolée.
Ah, sur l'anorexie.
Oui, la dernière phrase que vous venez de prononcer.
Bah, l'anorexie, souvent, on préconise. Quand ça devient vital, c'est-à-dire qu'il y a une perte de poids trop importante, on préconise donc une hospitalisation pour permettre à la personne de se réalimenter. Et dans les premiers jours, souvent, on ferme au niveau relationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de contacter la personne.
D'accord.
Ouais.
Bon, ben écoutez, je vous remercie. Donc ça, c'est lié toujours à un mal-être, à un manque affectif, que ce soit l'un ou l'autre, la boulimie ou l'anorexie, c'est ça? Ou un manque d'estime de soi?
Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est notamment la boulimie, effectivement, ça peut être un manque affectif, et l'anorexie, ça peut être un trouble de la relation aussi. Hein. L'anorexie, ça peut être, en gros, un refus de s'alimenter parce qu'on ne mérite pas de vivre, parce qu'on culpabilise, et parce qu'on, voilà, on n'est pas, effectivement, on mérite pas de vivre, quoi. Des fois, ça peut être ça, ouais.
Ah, d'accord.
Dans la croyance, hein. Évidemment, on mérite de vivre.
Oui. D'accord. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre émission et pour toutes vos explications. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci à Radio Maria, Marie. Au revoir. Merci à toute l'équipe.
Au revoir.
Merci. Au revoir, Madeleine.
Au revoir.
Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans notre quotidien pour que les adolescents se sentent bien?
Mais c'est encore une bonne question. Tout simplement, c'est encore une fois de leur montrer qu'on est présent pour eux, à leur écoute, mais en vraiment leur laissant cette liberté de se découvrir eux-mêmes et d'expérimenter un peu qui ils sont et comment ils vont se construire en tant qu'adultes. Ça passe donc par une modification des relations. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... Mais même nous, en tant que parents, hein, c'est-à-dire que c'est aussi accepter que notre enfant, finalement, soit plus un enfant, en fait, et qu'il devienne adulte. Donc c'est aussi avec le temps évidemment, hein, petit à petit, que ça se construit. Mais je pense que c'est une des clés, je dirais, c'est la question de la confiance. En gros, il faut avoir confiance en l'adolescent, en sa capacité à se construire et à aller chercher ce dont il a besoin pour bien se construire. Et puis, s'il sent qu'on est présent pour lui, s'il a besoin, il viendra nous voir. Et puis après, voilà, sans être défaitiste, hein, y a quand même beaucoup de cas où les adolescents peuvent se confier et peuvent demander évidemment à leurs parents des conseils ou des choses comme ça. On trouve aussi beaucoup ça, il peut y avoir un passage où à un moment donné, il y a ce besoin pour lui de se replier, d'être un peu en opposition pour se révéler, quoi. Mais j'avais un exemple, en fait, à vous partager. J'ai travaillé dans un centre éducatif fermé en Île-de-France quelques années, et c'est vrai qu'il y avait... c'est un exemple sur, finalement, l'évolution hein, qui peut se produire chez l'adolescent. Donc, c'est un jeune qui est venu chez nous. Donc, c'est des placements qui durent 6 mois. Alors après, c'est renouvelable. Mais généralement, c'est des jeunes qui viennent 6 mois et où il n'y a pas de retour en famille le premier mois. C'est quand même un établissement... CEF, en fait, c'est une alternative à la prison. Donc, et en fait, c'est un jeune qui était donc venu chez nous. Et je me rappelle de lui parce qu'il était retourné donc, chez nous au sens dans l'établissement avec donc, les règles du collectif, mais également des règles de vie hein, qui leur sont proposées. Fin... Et il était retourné chez lui un week-end et il nous avait raconté que finalement, ce qu'il avait fait ce week-end-là chez ses parents en retournant chez eux, c'était d'aller acheter des produits ménagers et de faire le ménage chez ses parents. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce que c'est... Voilà en quoi finalement les adolescents vont pouvoir piocher ce qui se passe dans leur environnement pour après eux-mêmes être plus réalistes quant à leurs conditions de vie et à ce qu'ils ont vécu aussi, quoi. Et lui, en l'occurrence, c'est un jeune, ça l'avait... En gros, il devait vivre avec des parents qui n'étaient pas forcément... très à cheval sur l'hygiène, on va dire ça. Et puis finalement, le fait d'avoir vu autre chose dans le centre où on l'avait, ben finalement, il a pu avoir un contraste avec ce qu'il vivait lui à la base chez ses parents. Et du coup, ça lui a permis de réaliser un peu ça.
Oui, c'est un très bel exemple. Est-ce que vous en auriez d'autres?
Mais c'est... oui. C'est... Alors là, c'est vrai que donc CEF, centre éducatif fermé, donc c'était des mineurs récidivistes. Donc là, ce que ça montrait pour beaucoup, c'était quand même des failles au niveau. Alors là, on est dans le contre-exemple, je dirais, souvent des failles au niveau des parents ou alors sans jugement, mais des parents qui pouvaient être absents ou avec des difficultés, des carences éducatives, affectives. Et où là, du coup, l'adolescent se retrouvait livré à lui-même. Et je dirais, finalement, quand il y a comme ça une forme d'abandon, derrière, en termes de symptômes, ça peut prendre deux formes, finalement. Soit ça va être dans quelque chose de la dépression, ou soit ça peut être dans quelque chose qu'on va extérioriser un peu ce mal-être. Et ça peut expliquer aussi des conduites, parfois, de délinquance, c'est-à-dire que... une forme de mal-être très forte et d'abandon qui fait que, en gros, voilà, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de lien sécure, et donc une forme de, vous voyez, de non-contenance, et donc on peut en arriver à des actes de délinquance, on peut en arriver à être récupéré par des personnes peu fréquentables ou des milieux, vous voyez, qui vont récupérer ces jeunes un peu qui sur le moment peuvent être un peu en perdition, c'est-à-dire sans repère, et donc c'est quand même encore une fois l'importance vraiment du travail d'accompagnement, de présence et de repère finalement. C'est-à-dire que autant c'est des jeunes qui peuvent être dans l'adolescence dans des postures de repli, d'opposition, mais ça veut évidemment pas dire qu'ils n'ont pas besoin des adultes en gros et qu'ils n'ont pas besoin d'adultes stables, responsables et qui leur montrent une forme d'exemple, quoi.
Ouais. Bah écoutez, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci pour tout ce que vous nous avez enseigné. Est-ce que vous auriez une petite parole pour les adolescents et pour les parents aussi, peut-être, pour conclure?
Oui. Les adolescents... Je leur dirais, vous vivez une très belle période. qui vous permettent d'explorer plein de choses et vous avez la capacité de vraiment vous construire. Donc allez chercher le meilleur et allez chercher le meilleur pour vous, ce qui vous semble le plus juste et ce qui vous semble le plus vrai pour vous. Et pour les parents, je leur dirais, profitez de cette chance de voir vos enfants grandir et devenir des adultes. Et que ça va vous permettre peut-être d'avoir de nouvelles relations avec eux, mais des relations du coup qui vont être d'une autre richesse.
Un grand, grand merci beaucoup, Patrice et Emmett, pour tout ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui. Eh bien, on reste en union de prière et bon courage pour tout ce que vous faites.
Merci beaucoup, bonne continuation à vous.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.